Bonjour, et mon cher au micro, eh bien, nous nous retrouvons pour l'émission Bienvenue en Europe avec M. Michel Bourgès-Monory. Et nous allons reprendre un peu le calendrier de cette période qui a été riche en élections, en actions, puisque ici et là, les États-Unis et Donald Trump réagissent et veulent élever les droits de douane ou retrouver les frontières, ce qui nous amène à peut-être nous sentir un peu plus européens ou peut-être à nous obliger à regarder comment nous fonctionnons. Donc, eh bien, voyons un peu où en est-on, parce qu'il y a...
Mais il y a eu effectivement différents des événements. Si vous le voulez bien, j'aimerais commencer par la plus ancienne réunion suite à notre dernière émission. Le 23 février dernier, il y a eu une réunion informelle des 27 chefs d'État et de gouvernement de l'Union, donc c'est-à-dire tous les États de l'Union européenne moins le Royaume-Uni. Et là, c'était une discussion donc informelle, puisque autrement, si c'était formel, ça aurait été à 28, et où il a été notamment question des questions budgétaires et aussi, en toile de fond, toute la problématique du Brexit. Alors, on y reviendra sans doute au cours de notre réunion de maintenant. Mais simplement, ce qui est intéressant, c'est de voir que il y a eu quand même confirmation par les chefs d'État d'appuyer financièrement, dans le cadre du budget pluriannuel, d'appuyer un certain nombre d'actions, notamment vis-à-vis de la migration illégale, défense et sécurité, le programme Erasmus, là on en avait déjà parlé des fois précédentes, et puis également, parce que c'est un problème qui va se poser au niveau budgétaire, c'est à la suite du retrait du Royaume-Uni, eh bien, le budget va se retrouver amputé de la part que le Royaume-Uni assumait jusqu'à présent. Et il s'agit quand même d'une part relativement importante. Et donc les États qui restent, les 27, se sont entendus pour combler ce déficit et d'appuyer des actions nouvelles précisément dans ce qu'ils ont essayé de tracer comme priorité. Donc tout ceci sera revu lors du prochain Conseil européen formel, cette fois-ci, qui se tiendra fin mars. Et entre-temps, ils ont également pris des positions concernant la nouvelle composition du Parlement européen après
redistribution des députés,
anglais en 2019. Il y a donc une baisse du nombre de sièges pour tous du total du Parlement européen, pour garder en réserve un certain nombre de fauteuils pour de nouveaux entrants éventuels. Il y a eu une prise de position qui a été prise en ce qui concerne la nomination du président de la Commission à la suite de ces futures élections. C'est ce que l'on appelle l'affaire du Spitzenkandidaten. Et là, le Conseil a été très ferme, c'est-à-dire les chefs d'État ont été très fermes, contrairement au Parlement européen qui dit « nous allons proposer que celui qui gagne l'élection au niveau du Parlement européen, le chef de file, le candidat, le Spitzenkandidat, lui, eh bien, il deviendra président de la Commission comme l'a été M. Jean-Claude Juncker ». Or, les chefs d'État ont dit non, pas du tout. Ce n'est pas ça qui est prévu de toute façon dans les traités. Et ce sera en fonction de notre avis à nous aussi, parce que celui qui remportera la majorité, très probablement le PPE au niveau du Parlement européen, compte tenu de ce que l'on sait sur la cartographie électorale européenne. Donc il y aura quand même en perspective peut-être un certain nombre de conflits entre le Conseil et le Parlement européen s'agissant de la candidature du futur président de la Commission européenne, qui, rappelons-le, est le chef de l'exécutif européen. Par ailleurs, il ne devrait pas y avoir de révision sur les listes transnationales qui ont été abandonnées au niveau du Parlement européen, mais le Conseil, les États ne disent pas non éventuellement. Donc là aussi, les choses restent ouvertes. Et puis, en revanche, ils sont tout à fait opposés à la proposition de Juncker de fusionner dans le futur le poste de président de la Commission avec celui de président du Conseil et du Conseil européen. À l'heure actuelle, c'est M. Donald Tusk, qui est un Polonais, qui aura la fin de son mandat au moment précisément du renouvellement du Parlement européen et du renouvellement de la présidence de la Commission. Et la Commission avait dit, pour que ce soit plus clair pour tout le monde et notamment les citoyens, il serait plus logique qu'il y ait un seul président qui préside véritablement cet exécutif tout en présidant les réunions des États. Alors là, il y a un désaccord et on verra ce que cela donnera. C'était pour l'essentiel ce qui s'est dit à ce moment-là, cette réunion, mais je crois qu'il fallait en toucher un petit mot parce que pour les débats futurs, certainement, on pourra se référer à ces positions qui font que, au niveau européen, on parle de plus en plus de relance de l'Europe à la suite de l'élection française de M. Macron, mais on sent d'ores et déjà que dans un certain nombre d'États, il y a des résistances pour aller soit dans un sens, soit dans l'autre, et que cette relance ne sera pas aussi facile que cela peut paraître. Et précisément, l'élection, depuis notre dernière réunion, il y a eu le même jour, le 4 mars, l'accord du SPD, donc les partis social-démocrates allemands, qui ont voté à presque 70% en faveur de la coalition avec Mme Merkel, donc de son groupe
ce
politique
qui est bon
CDU,
pour l'Europe.
Ce qui est bon pour l'Europe, parce que le SPD est vraiment pour l'Europe et a pris des positions très claires à cet égard. Ça, c'est le côté d'espoir. D'un autre côté, il y a eu les élections italiennes qui mettent un certain bémol à cette ouverture, dans la mesure où là, il n'y a aucun parti qui arrive en mesure de pouvoir gouverner l'Italie, et tous ceux qui arrivent en tête, à savoir le mouvement 5 étoiles
et
l'extrême droite italienne, sont ces deux principaux partis, ne sont pas du tout ouverts à une approche européenne, comme c'était le cas de l'Italie dans le passé. Donc là, il y a de grands questionnements à se poser, et c'est important pour le futur de l'Europe.
Il n'y a pas le fait aussi, parce que je crois aussi que l'Espagne et l'Italie étaient en première ligne pour recevoir des réfugiés en provenance du sud de l'Europe et de l'au-delà de la Méditerranée. Or, on les a laissés se débrouiller tout seuls. Et je crois que là, il y a peut-être une responsabilité à avoir et peut-être une solidarité à retrouver entre les États européens, parce qu'on perçoit que ce soit en Europe de l'Est, en Hongrie par exemple, en Hongrie, il y a eu quand même 300 000 migrants. En Italie, il y a eu toutes ces arrivées que l'on voyait à Lampedusa et ailleurs. Et on voyait aussi, prenons l'exemple de la France, des policiers refouler les gens du côté de Vintimille ou sur les chaînes alpines. Donc il y a quelque part une hypocrisie française, par exemple, et peut-être de chaque État européen, à se considérer comme, il faut Yaka, mais les Yaka faucons, il y a aussi cette responsabilité de chacun d'entre nous et de nos instances dirigeantes à nous solliciter pour être en solidarité avec les autres pays. Parce que c'était impensable de laisser l'Italie seule face à la déferlante migratoire, de la même manière de laisser les pays d'Europe de l'Est face à la déferlante migratoire qui venait de Syrie et du côté de la Turquie. Donc là, je crois que c'est peut-être une réflexion à avoir et que nos deux, Mme Merkel et M. Macron, là, ont une responsabilité importante à jouer.
Vous avez tout à fait raison, et ça, tous les partis populistes, on l'a bien vu aux différentes élections dans les pays européens, que ce soit les dernières aussi en Autriche, les prochaines en Hongrie, maintenant celles qui viennent d'arriver en Italie. Les partis populistes qui font des percées vraiment très importantes se basent justement sur le refus de l'immigration, ou en tout cas ils jouent sur l'inquiétude.
C'est quand on voit tout ceci, affiches, Italie d'abord.
Tout à fait. Et donc, en ce qui concerne l'Italie, il y a deux faits qui, apparemment, ont marqué la population. C'est d'une part, évidemment, le fait, comme vous l'avez indiqué, que l'Italie s'est sentie pas du tout soutenue, donc un manque de solidarité de ses voisins et de l'Europe en particulier, enfin des autres pays européens, vis-à-vis des réfugiés qui arrivaient chez elle. Et aussi un deuxième aspect qu'on n'a sans doute pas toujours souligné, mais qui est que du fait de l'introduction de l'euro, eh bien, dans un certain nombre de couches de la population italienne, ils ont eu le sentiment que c'était comme un carcan qui leur était imposé en ce qui concerne la gestion économique et financière. Et donc, indirectement, une certaine remise en cause de l'ordre social dans leur pays. Mais le point le plus essentiel, c'est comme vous l'aviez souligné, c'est ce manque de solidarité au niveau européen en ce qui concerne la crise des réfugiés. Et également, et là il faut peut-être encore appuyer sur ce fait, c'est que ce manque de solidarité, on dit, on l'entend souvent dans les médias, l'Europe ne fait rien, c'est la faute à l'Europe. Non, c'est la faute des États qui sont partie prenante. Ce n'est pas de la responsabilité de l'Europe en tant que telle, de Bruxelles, de la Commission européenne qui représente l'intérêt commun, d'agir dans ce domaine, sauf si elle reçoit une instruction précise des États membres. Or, en ce qui concerne la crise migratoire, il y a eu des tentatives précisément de la Commission européenne de dire « on va vous proposer une répartition des réfugiés avec des quotas et il faudra mettre des moyens, notamment financiers ». Or, les États, certains en tout cas, notamment du côté de la Hongrie, de la Pologne, il y a eu un refus net d'accepter des réfugiés et de participer à ce système des quotas. Et deuxièmement, il y a eu un refus aussi de participer financièrement à la création notamment d'un corps de frontaliers, de douaniers, etc., qui ont certes reçu certains renforts, mais qui sont ridicules par rapport aux besoins. Donc, lorsqu'on dit « c'est Bruxelles qui ne fait pas son travail, c'est la faute à l'Europe », non, c'est la faute aux États membres de l'Union qui ne veulent pas ou qui...
Donc ça veut dire qu'il faudrait que...
Et c'est notre faute également, en tant que Français, précisément, vous disiez, les douaniers qui reconduisent à la frontière italienne.
On pourrait les déplacer au lieu de la frontière italienne sur la frontière européenne.
Voilà. Il y a une vraie politique qui manque, mais cette politique, elle doit être acceptée par les États membres. C'est la faute des États membres si ça ne marche pas à l'actuel.
Oui, mais le fait là, c'est un peu... Enfin bon, c'est vrai que c'est intéressant intellectuellement de se dire ce n'est pas simplement, ce n'est pas l'Europe, ce sont les États membres et ce sont chacun des États. Et tout à l'heure, lorsque vous évoquiez la difficulté de par exemple, de faire fusionner le président de la Commission et le président
du Conseil européen.
C'est vrai aussi que là, on a l'impression quelque part que c'est, dans le fond, quelque chose qui concerne les structures, on s'en fiche un peu, et puis que, d'une certaine manière, eh bien, on veut conserver chacun sa sphère. Alors que il y a peut-être à montrer aux Européens, aux citoyens, qu'ils ont des intérêts communs. Et là aussi, une éducation de chacun des citoyens. Et ça, je vois en positif Erasmus. Je vois aussi en positif que dans certains pays, y compris ceux qui sont les plus attachés au nationalisme, je pense par exemple à la Hongrie. Eh bien, en Hongrie, on a vu que lorsqu'il y a eu une alliance entre les gens qui s'opposent à la droite et aux droites traditionnelles ou aux droites de l'Union civique, il y a eu, et je trouvais ça intéressant, une élection près de la frontière serbe où le ministre du gouvernement actuel a été battu par une coalition démocratique. Donc je me dis, tout n'est pas perdu et les Européens, ils sont bien conscients des enjeux. Quelquefois, je suis tentée de dire « on oublie les leçons d'histoire », mais non, certains, là, pensent que le nationalisme, ce n'est pas la bonne solution. Maintenant, c'est vrai qu'il convient que nos médias, heureusement Radio Grand Ciel en parle de l'Europe, nos médias parlent en positif de l'Europe. Eh bien, nous allons faire une pause musicale avant de poursuivre. «
Martin, est-ce que tu viens demain? J'aimerais bien savoir ce qui peut être possible entre nous. Martin, les lignes de ta main me laissent apercevoir des choses. Et nos rendez-vous, ta ligne de vie est très jolie. Ta ligne de cœur ne me fait pas peur. Et le destin, il est pour nous, Martin. Ne fais pas le malin. Les envies, les espoirs, ça veut dire que ça vaut le coup, Martin. Si j'ai eu du chagrin, aujourd'hui la victoire serait de te voir pendu à mon cou. Ta ligne de cœur ne me fait pas peur. Ta ligne de vie est très jolie. Et le destin, il est pour nous. Et le destin, il est pour nous, Martin. Est-ce que tu viens demain? J'aimerais bien savoir ce qui peut être possible entre nous, Martin. Si tu ne me dis rien, je crois qu'il va falloir que je choisisse plutôt Benjamin.
Nous sommes toujours dans l'émission Bienvenue en Europe sur Radio Grand Ciel avec M. Michel Bourgès-Monory. Alors nous évoquions donc le déroulement des événements. Où en est-on avec le Madame May, dont on attendait le discours? Et on va pouvoir faire un paquet cadeau avec aussi les États-Unis puisque tout ce monde se replie.
Oui, il y a effectivement dans le monde actuel un repli, on en a parlé à travers l'approche plus ou moins nationaliste au sein même de l'Union européenne. En ce qui concerne le Brexit, le 28 février dernier, la Commission a publié un projet d'accord de retrait. Donc sans attendre le résultat des négociations, elle a tenu, comme support d'ailleurs aux discussions à venir, à mettre sur par écrit qu'est-ce que pourrait être un accord, donc un traité, futur traité, avec le Royaume-Uni. Et tout ceci pour mieux cadrer les choses à venir, d'autant plus que c'est d'une technicité terrible, puisque l'on passe en revue tous les éléments qui constituent notamment le marché unique, entre autres. Et Michel Barnier, le négociateur en chef du côté européen, a souligné qu'il y avait une conformité de son contenu avec les lignes directrices qui ont été données par les États membres. Évidemment, reste l'un des grands soucis, et on ne voit toujours pas une porte de sortie à cet égard, qui concerne la frontière entre l'Irlande du Nord et l'Irlande du Sud, et la République d'Irlande. Donc là, il y a un grand point d'interrogation. Quelles seront les futures relations entre ces deux entités? D'une part, la République d'Irlande qui reste dans l'Union européenne, comme état de droit, qui en fait partie, et puis la partie du Royaume-Uni constituée par l'Irlande du Nord, sachant que si on fait un accord de libre-échange, et c'est sans doute ce qui va se passer, comme il y en a eu avec, par exemple, le Canada, entre l'Union européenne et le Canada.
Oui, c'est l'exemple qui est souvent pris.
Qui vient en arrière. Mais qu'est-ce qui se passe avec cette frontière-là? Donc là, les choses sont vraiment très délicates. Par ailleurs, il y a eu des prises de position, notamment du président du Conseil européen, M. Tusk, qui a également souligné quelles étaient les orientations des États, donc des 27. Donc ce sera normalement confirmé, ces orientations-là, au Conseil européen du mois de prochain de mars. Ce qu'il a dit, c'est qu'on reste évidemment très ouvert et amis avec le Royaume-Uni, mais il faut bien quand même avoir un traité et des relations qui soient claires. Alors il a rappelé que, en ce qui concerne la sécurité, le terrorisme, la criminalité, la défense, la politique étrangère, pas de problème, on coopérerait toujours avec le Royaume-Uni, même s'il est en dehors de l'Union européenne. De même aussi en ce qui concerne la recherche, l'innovation, l'éducation, la culture, tous ces programmes de l'Union devraient continuer à se poursuivre avec le Royaume-Uni, même si celui-ci est en dehors. En revanche, c'est là où
ça coince,
ce sont les relations économiques. Quelles seront les relations commerciales avec le Royaume-Uni? Et donc on s'oriente vers un accord de libre-échange qui resterait le seul modèle possible. Et la difficulté, c'est évidemment comment cet accord de libre-échange peut fonctionner. On ne peut pas être à la fois avoir une politique à la carte avec « on veut les bénéfices du marché unique », donc liberté de commerce, liberté des échanges, et puis d'un autre côté dire « ah non, on fait ce qu'on veut si on est britannique ». Donc là, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Et donc, parallèlement, les Britanniques eux-mêmes...
Il n'y a pas de choix à la carte.
Il n'y a pas de choix à la carte. Ça a été très clairement rappelé par M. Tusk. Ce qui compte, c'est l'intégrité du marché unique. Il est hors de question qu'un État membre adopte une approche de choix à la carte. Ça, il l'a rappelé textuellement. Et il a aussi rappelé, en parallèle avec ce qui se passe avec M. Trump, justement ce qu'on disait à l'instant, c'est que Trump a textuellement indiqué dans son speech annonçant les taxes qu'il veut mettre sur l'acier et l'aluminium, en disant « les guerres commerciales sont bonnes et faciles à gagner ». M. Tusk a repris exactement la même formulation, mais en inversant certaines parties de la phrase, en disant « les guerres commerciales sont mauvaises et faciles à perdre ». Et en rappelant que
l'intérêt européen dont il se portait...
Tout à fait.
Il était garant.
Il est garant.
Je trouve ça intéressant.
Et alors, parallèlement, ce qui est intéressant, c'est de souligner que du côté britannique, à la fois, on ne voudrait pas trop perdre, et toutes les études actuellement qui sont engagées de leur côté, y compris des études officielles, mais officieuses, qui ont été demandées par le gouvernement britannique pour savoir quelles seraient les conséquences concrètes, toutes ces études montrent véritablement de très mauvaises perspectives pour l'économie britannique.
Bah, déjà, le fait de déménager tout un ensemble de structures qui existent...
Il y aura des milliers d'emplois qui seront perdus. Une partie de la finance va aller vers le continent européen, quittera le Royaume-Uni et notamment la cité de Londres. La croissance économique risque de chuter sur les prochaines années de l'ordre de 5%, sans parler de l'inflation qui va être en parallèle. La situation des milliers d'Européens qui vivent au Royaume-Uni ou des Britanniques qui vivent au sein de l'Union européenne, leur situation n'est pas du tout claire pour l'avenir. Mais en tout cas, en ce qui concerne le Royaume-Uni et indirectement aussi l'Union européenne, eh bien, il va y avoir des dégâts du fait de ce retrait.
Oui, alors, ce sera coûteux pour eux, mais aussi coûteux...
Mais aussi forcément pour nous, pour certaines parties de notre commerce.
J'avais trouvé amusant notamment de... Bon, on ne va quand même pas interrompre les vols entre le Royaume-Uni et l'Europe.
Plein
d'humour.
Mais bon, c'est un
humour.
Parce
que il y a quand eu la région, Eurostar, c'est quand même assez plein.
Il y a eu la région Normandie qui a fait, de manière humoristique, créer un faux... hebdomadaire qui s'appelle, si je me souviens bien, Normandy Times, en anglais bien sûr, et qui est diffusé notamment à Londres, et également sur Internet, où il y a effectivement des cartes où on voit des avions, de tout le monde qui fuit le Royaume-Uni pour aller vers la Normandie, qui, elle, ouvre ses portes pour accueillir, évidemment, toute l'industrie, la finance et tout ce que l'on veut du bon côté, chez nous, où là, ils auront la sécurité, ils seront bien accueillis.
Alors, donc, en attendant, puisque vous évoquiez la question financière et la question donc de l'attribution des ressources européennes, on peut souligner une bonne nouvelle pour nous qui sommes dans la région Centre-Val de Loire, c'est que dans la répartition qui est sortie de ces, qui va être proposée, il y a un soutien aux régions industrielles et en France, le Grand Est, effectivement, les Hauts-de-France, mais aussi la région Centre-Val de Loire.
Oui, tout à fait. Là, il y a, au niveau de communautaire, c'est la Commission européenne qui est chargée de gérer ce qui s'appelle une action pilote sur la transition industrielle. Ce sont une série d'actions, en fait, avec des projets pilotes qui ont été identifiés dans tous les États membres, pour essayer d'aider à la transition industrielle du fait du monde moderne,
énergétique,
etc. Donc il y a tout ce qui touche du fait qu'il y a des régions qui, du fait de cette transition, vont en pâtir ou en pâtissent déjà. Eh bien, il faut aider à leur reconversion et essayer de pousser tout ce qui pourrait être innovant pour justement remonter la pente dans l'autre sens. Alors jusqu'à présent, il y avait les Hauts-de-France, donc le nord de la France, qui était sélectionné. Eh bien, maintenant, avec le 7 mars exactement,
en plus,
la Commission européenne a sélectionné, pour toujours ce même projet, la région Centre-Val de Loire, et elle bénéficiera, donc notre région bénéficiera directement de crédits communautaires qui devraient s'élever autour de 500 000 euros quand même. Ce n'est pas négligeable, mais c'est surtout de pouvoir bénéficier de l'expertise qui va être mise en œuvre pour accompagner et appuyer tous ces projets pilotes sur le terrain.
Donc
voilà une bonne action
de
l'Europe concrète qui s'applique directement à notre région.
Alors disons que dans ces mêmes actions financières durables, eh bien, on demande que cette économie ou que ces finances soient aussi des finances durables et qu'on arrête de voir le court-termisme et qu'au contraire, dans les critères de choix, il y ait la vision à long terme, la durabilité et pas simplement qui court avec les échéances électorales futures, favoriser aussi la transparence. Ça, je crois que ça peut être intéressant parce qu'on sait, par exemple, que inversement, l'Europe était très transparente par rapport à ses subventions. Et puis, sous la pression des États, cette transparence qui disait c'est telle ferme qui a reçu tel argent de l'Europe, notamment dans la PAC, eh bien là, on va peut-être revenir sur cette transparence. Et je crois que ça peut être intéressant parce qu'il faut tenir compte de l'épuisement des ressources et de l'environnement.
Et alors un dernier mot à rajouter, puisqu'on est au niveau de notre région et plus particulièrement de la ville de Chartres et plus particulièrement encore de la commune du Coudray, où il y a un centre européen qui s'appelle le Centre européen de rencontres Franz Stock. On en a déjà parlé à l'autre occasion, on pourra toujours y revenir, mais soulignons que le 24 mars prochain, il y a une exposition et des dédicaces qui seront organisées autour de livres et d'expositions dans ce centre européen Franz Stock, samedi 24 mars de 14h à 18h.
Donc,
c'est le séminaire des Barbelés, 56 rue des Bélangères au Coudray.
Donc voilà, nous terminons sur cette invitation pour les habitants de Ré-Loire et puis d'autres aussi, n'hésitez pas, à venir au Coudray à cette rencontre.
Qui est toujours en faveur de l'Europe, qui se soutient comme centre européen.
Allez, eh bien, bonne semaine à tous et au revoir.